Bonsoir à tous. Donc, ce cycle imaginaire des villes a commencé en décembre dernier. Et donc, une fois par mois, on vous invite à venir voir un film qui parle d'une ville, qui traite d'une ville. Et ensuite, on a le plaisir de rencontrer le réalisateur ou la réalisatrice et un invité qui a également travaillé sur cette ville. Donc, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir un film autour de Belfast qui s'appelle Le Libraire de Belfast. Et donc, d'accueillir Alessandra Celezia, la réalisatrice. Et j'ai inscrit cette séance dans le cadre du marché de la poésie, puisque cette année, le marché de la poésie, qui a lieu début juin, place Saint-Sulpice, invitait une délégation de poètes irlandais. Donc on a profité de la venue de certains poètes en France pour les inviter ici ce soir. Donc j'ai le plaisir d'inviter Jackie McCarrick, qui est poète mais aussi artiste, qui est en résidence actuellement au Centre culturel irlandais, donc qui sera avec nous ce soir. Et Derry O'Sullivan, qui animera la rencontre, qui est également poète irlandais, tous les deux originaires de la région de Belfast. Donc je laisse la parole aussi à Vincent Gimeno, qui organise le marché de la poésie et qui va donc vous en parler un petit peu.
Bonsoir, merci à tous d'être là. C'est la périphérie numéro 1 de cette année 2013. D'abord, je tiens à remercier la BPI de nous associer à cette soirée. Donc, lorsque Florence Verdeil nous a dit, voilà, on fait une soirée sur Belfast, en plus le film s'appelle Le Libraire de Belfast. À Belfast, l'invité d'honneur, c'est l'Irlande. Le Libraire de Belfast, il était bien entendu qu'on ne pouvait que vouloir s'associer tout naturellement à cette soirée. Donc, on a œuvré avec le Centre culturel irlandais pour que deux poètes puissent participer à cette soirée. Vous dire que c'est donc la périphérie numéro 1 de ce marché de la poésie 2013 qui fête ses 30 ans. Vous avez tout le programme de tous les événements qu'il va y avoir au mois de mai, au mois de juin, dans le journal qui est à l'entrée. Et puis, après, donc, il y aura une petite rencontre avec la réalisatrice et les deux poètes, et on vous souhaite une bonne soirée.
Bonsoir. Alors, Jackie va maintenant poser quelques questions à Alessandra en anglais et je vais les traduire en français.
It's a very beautiful film, Alessandra.
C'est un très beau film, Alessandra.
It's a poem in itself.
Poème en lui-même.
Congratulations.
Félicitations.
Though it's been described as a documentary,
fait présenté comme documentaire,
it sort of feels and seems scripted in a very precise way.
On sent que ça a été quand même écrit d'avance d'une façon très précise, comme pour des comédiens.
As if scripted for actors, but then they're not actors, right?
Mais ils ne sont pas des comédiens, n'est-ce pas?
It's like you're using these real-life characters to tell your story with your words and their words, but their very own, very personal experiences.
Oui, c'est comme si vous utilisez ces personnages réels pour raconter votre histoire, avec leurs mots et leurs expériences.
It's very subtle.
C'est fait subtilement, très subtilement.
And it's not like a fly on the wall.
On se sent pas comme une petite souris.
It's more stylized, like a refinement of real material. But my question is, how did you arrive at the script?
C'est ma question est, comment êtes-vous arrivé à ce script?
Merci, ça me fait plaisir que ça vous plaise. J'étais un peu gênée avant parce que je suis la seule non-irlandaise. Donc je me sentais dans une position d'avoir raconté une histoire irlandaise sans être irlandaise. Alors.
Donc c'est comment vous êtes...
Comment, oui. Bon, il y a eu une rencontre au départ. Donc je cherchais un livre, quelqu'un m'a dit tu peux le trouver peut-être à travers cet ancien libraire. Et donc il y a eu une espèce de coup de foudre. Au départ, de cette personne que je comprenais pas, je comprenais pas un mot de ce qu'il disait. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de pouvoir comprendre son accent, mais j'ai senti que il avait déjà il était comme Pasolini, il ressemblait à Pasolini, donc il y a eu tout de suite quelque chose. Mais j'ai senti qu'il portait en lui, je sais pas pourquoi, mais tout ce que j'aimais de Belfast, la poésie, je sais pas, il y a en lui, il était un monde. Donc après, comment on est arrivé à la forme du documentaire que vous voyez, c'est un très long parcours parce qu'il y a 7 ans qui se sont écoulés de la première rencontre. Donc c'est d'aller le voir régulièrement, de mettre dans la tête des choses que j'ai vues et commencer à filmer sans vraiment savoir. En réalité, qu'est-ce qui allait se passer? J'avais cette idée de l'Arc de Noé, que pour moi c'était un peu sa maison remplie de livres, et j'avais pas beaucoup plus que ça. Parce qu'une fois que tu commences à filmer, c'est le réel qui rentre en jeu. Après, moi je viens du théâtre, donc j'ai un peu la tentation, quand je travaille avec le réel, de le voir sous peut-être un œil déformé par cette donc d'essayer de lui donner une forme. Voilà, je sais pas, c'est assez il faudrait une longue réponse. Je peux,
vous pouvez dire.
Je développe. Non, dans le sens que vous parlez d'écriture, mais l'écriture d'origine du projet n'a rien à voir à ce que le film est devenu. Sauf l'Arc de Noé, sauf cette idée de raconter la ville à travers des personnes, il n'y a pas beaucoup plus qui est resté. Et l'écriture a commencé quand j'ai commencé vraiment à travailler avec le réel, mais ce n'était jamais une écriture sur papier. C'était une écriture un peu plus dans la tête, en essayant de mettre ensemble, de tirer des petites ficelles que je trouvais petit à petit. Donc il y avait quelque chose qui commençait, je tournais une scène qui comme tout d'un coup avait un sens, et ça a amené à l'idée de pouvoir peut-être continuer sur une autre scène. Donc c'était une écriture plutôt jour après jour, dans les jours de tournage, on va dire. Voilà. Et je pense que j'avais la chance que les personnages sortaient des textes magnifiques, donc il fallait être juste les capter.
Et combien de jours ça a pris à peu près une fois lancé?
On a filmé pendant 6 semaines, donc c'était pas très très long, mais voilà, je le connaissais depuis 7 ans et j'étais avec lui 3-4 mois avec les autres personnages un peu de façon immersive tous les jours pour me nourrir, pour avoir des informations. J'avais eu l'information qu'il voulait changer de lit, parce qu'il ne voulait pas changer de lit, mais qu'il ne trouvait pas de matelas à la taille. Et j'avais eu l'information que la coiffeuse avait un matelas. Et j'étais assez sûre que le matelas, il n'était pas assez petit pour son lit, qu'il allait être trop grand. Donc voilà, il y avait des choses comme ça, comme des informations qui s'étaient nourries, et dans ce sens-là, une petite écriture, oui, essai d'écriture, oui.
Merci beaucoup. Alors, deuxième question.
I've seen the film 3 times.
J'ai vu ce film maintenant 3 fois.
And I feel there seems to be a sense of threat hanging over the world of these characters.
Et je sens comme une menace qui vole au-dessus de ce monde, de ces personnages.
And even though this is, it's, you know, it's Belfast and there's a bomb scare.
Oui, c'est Belfast. Il y a une alerte à la bombe.
I mean, the threat seems to be coming from, not from there, but from the outside world, some other force like the times, the age.
Le menace me semble venir d'un monde plus grand, de l'extérieur, une autre force, peut-être l'air, l'époque.
To me, it seems in the film like John Clancy sort of represents the last or a man of the community.
Pour moi, John Clancy représente ici le dernier homme de la communauté.
While the book is a metaphor for connection and something real that is.
Tandis que le livre me semble être une espèce de métaphore pour la connexion, quelque chose de réel.
Something that's passing away.
Quelque chose qui passe.
So, I mean, you mentioned Jolene's Facebook addiction.
Vous faites allusion que Jolene et qu'elle soit accro à Facebook.
So, is there a sense that you're making a comparison between the age of community versus the digital age?
Est-ce que ça vous faites, par exemple, une comparaison entre l'âge communautaire, pour ainsi dire, contre l'ère numérique?
Oui, je pense que c'est eux qui font la comparaison à ma place, dans le sens que je pense que tout ça n'est pas exprès. Quand on analyse la vie, il y a forcément le aujourd'hui et le passé des gens. C'est vrai que moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est les choses qui sont là pour pas très longtemps. Les choses qu'on a l'impression qui vont disparaître ou les gens qui donnent l'impression de ne pas avoir assez de force pour survivre à ce monde, mais qu'à la fin, ils survivent quand même, et même mieux que d'autres personnes. Donc, pour vous répondre, je pense que John Clancy, je lui avais posé la question au début, c'était quoi son livre préféré. Il m'avait dit c'est Bambi, de Félix Salten. Et j'avais trouvé que ça, c'était quand même assez extraordinaire, et j'ai lu le livre, et dans le livre Bambi, au début il doit se mettre debout parce qu'il vient de naître, il ne sait pas trop se tenir debout, et c'était l'autre métaphore qui me conduisait un peu à travers le film on a du mal à se mettre debout, on a beaucoup de faiblesses, on a beaucoup de choses qui nous frappent de plein fouet. Pour eux, c'était, oui, l'histoire de la ville, mais c'est pas juste ça, c'est un temps qui va trop vite, peut-être. Et eux, ils sont plus lents, ou ils ont envie d'être plus lents que le temps. Voilà. Donc, je pense qu'il y avait tout ça. Moi, comme vous dites, j'ai l'impression que c'est pas forcément que à Belfast que ça... Ça pourrait être un peu partout. Moi, j'arrive de toute autre expérience avec toute autre expérience de vie. Donc, la rencontre avec eux et ce type de sujet que j'avais envie de porter, c'est quelque chose qui vient aussi de moi, effectivement, qui n'est pas forcément lié à la ville.
Et Jolene est quand même accro et dépend énormément de Facebook d'un côté et du CD qu'elle veut enregistrer. Donc, est-ce que c'est ça, son salut, le numérique pour elle?
Elle est accro à ses rêves, comme tous les autres en fait, c'est ça je pense, qu'à la fin c'est le libraire, il m'a dit, c'est un film sur les rêves, je pense que c'est ça, oui. Ben, Jolene, c'est exactement un peu... parce que quand je suis arrivée à Belfast... la première fois, c'était en 95, et c'était une ville où tout d'un coup il y avait eu un boom, un peu, c'était comme une espèce de ville d'après-guerre, non, où j'avais l'impression que tout le monde sortait, allait au restaurant, il y avait plein de grands magasins qui s'ouvraient, les grandes chaînes de grands magasins, et donc que cette modernité était en train d'effacer un peu une espèce de âme de la ville. Mais ça, je me suis aperçue après que c'était un côté nostalgique, un peu un peu bébête de ma part, parce qu'en réalité, Jolene, elle est en plein dans la tradition, je pense, de cet amour de la musique, voilà, que ce soit des grands tubes d'aujourd'hui, c'est pas grave, mais voilà.
Merci. Alors, une troisième question.
The books that you select in the film, Bambi, Bombs in Belfast, The Light of Rome.
Oui, les livres Bambi, Belfast et The Light, La Lumière de Rome.
Did you select these very deliberately?
Les avez-vous choisis délibérément?
Oui, c'est les personnages, encore une fois, qui les ont choisis. C'est Robert, donc c'était ma chance que j'avais un accent italien, parce que tout d'un coup il m'a dit, avec ton accent italien je vais faire tout ce que tu veux, et il s'est ouvert à moi immédiatement, et immédiatement j'ai vu cette espèce de monde. En fait, il n'est pas un punk, sa coiffure, c'est parce que les Romains, sur leur casque, ils ont les centurions romains, voilà. Donc tout d'un coup, chez lui, j'ai vu cette passion pour... c'est des passions que normalement on ne développe pas trop dans les North Belfast. C'est pas vraiment l'endroit où on aime voilà, l'histoire romaine. Donc c'est vraiment des livres qui sont arrivés dans le film par eux. Le livre que j'ai tenu à que ce soit dans le film, c'était le livre qu'il lit dans la chambre avec son frère sur Rome. Le premier petit, où il dit que c'est une ville qui a été ensevelie plusieurs fois sur elle-même, et ça, c'était le livre qu'il a volé à l'école élémentaire, en fait, et c'est son livre fétiche qu'il garde depuis longtemps. Voilà, ça c'est effectivement, c'était le premier contact que j'ai eu avec lui sur cette histoire de Rome et tout. Il m'a montré ce livre, donc oui, je tenais qu'il soit. Et les autres, ils y sont arrivés. C'est comme une collection un peu par hasard. Ce qui n'était pas par hasard, c'était le livre entre guillemets parlé, c'est-à-dire la poésie de Connor, du rappeur. Et ça, j'étais plus la chercher. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai cherché activement, parce que j'avais envie que ce ne soit pas juste de la poésie qui était sur les livres, parce que j'avais l'impression que John Clancy, sa force, c'était d'avoir toujours dealé avec des poètes vivants, des poètes de nos jours. Donc, par exemple, le monsieur qui lit, qui s'appelle John Campbell, qui est un poète de Belfast, et Connor, j'avais vraiment envie d'avoir un poète vivant, et donc quand je l'ai rencontré, c'était important pour moi qu'il y ait dans ce sens-là le digital, oui, qu'il y ait de la poésie, mais vraiment, qu'est-ce que c'est la poésie aujourd'hui à Belfast? Et bon, je l'ai trouvé dans cette chambre, où après j'ai trouvé aussi le frère qui aimait Rome.
Oui, c'est difficile d'éviter la violence dans ces poèmes, et les deux d'ailleurs, que ça soit John Campbell ou que ça soit le frère, le rap et le poème sont pleins de violence quand même. Oui.
D'ailleurs, il y a une scène qui n'est pas dans le film où John Campbell, il a dit, mais je crois que, il a dit à Connor, je crois que j'ai composé un rap en 58, en fait. Et donc il a sorti un texte qu'il avait écrit sur lui, il travaillait au port, et il a sorti ce texte, et donc quand il lui a fait le beatbox, ça, lui il a commencé à dire son texte qui avait vraiment des allures de rap. Et c'est une scène qui n'est pas dans le film, mais c'était assez fort de voir cette poète de deux générations complètement différentes qui se retrouvaient sur la force des mots, en fait. C'était vraiment... C'est épatant.
Are you making any kind of So I'm going to move on to that window. Are you making any kind of social comment on Ireland, Northern Ireland today?
Est-ce que vous faites une espèce de commentaire social sur l'Irlande d'aujourd'hui ou le Nord d'Irlande d'aujourd'hui?
In that the young people here have dreams of escaping.
Ici, les jeunes rêvent d'échapper, de partir.
Whereas John Clancy.
Tandis que John.
Even at the height of the troubles, stayed in Belfast and had a business.
Même au pire des événements, est resté à Belfast et a continué son business. Est-ce qu'il y a un commentaire sur l'Irlande?
Ça, c'était mon gros problème pour tourner le film, que je me sentais toujours un peu gênée d'être étrangère pour tourner un film sur un pays qui a une histoire si forte. Et que je... Ben justement, je pense que je voulais ni parler de la guerre, ni parler de gros problèmes sociaux, parce que je... C'est un monde dont je perçois des choses, mais je peux pas. Je pense que si tu n'es pas né à Belfast, tu peux pas vraiment comprendre la ville. C'est comme si tu n'es pas né à Naples, je pense que tu peux pas comprendre Naples. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose de cet ordre. Donc, mon sentiment, c'était que je pouvais peut-être raconter des histoires humaines que j'avais touchées. Et qui me touchaient, et que ça, je pouvais raconter. Et à travers eux, c'est vrai que finalement, cette guerre est revenue, même malgré moi, parce que ça, comme vous dites, dans les textes, dans plein de choses, est revenue. Le fait qu'ils disent qu'ils veulent partir, moi, pour mon expérience personnelle, je suis mariée à quelqu'un de Belfast, ils disent tous qu'ils veulent partir, mais ils veulent tous revenir. Il y a un attachement viscéral pour cette terre où il pleut toujours. Comment ça se fait? Mais non, c'est... Mais je pense que John Clancy, en fait, moi j'ai eu cette sensation que lui, parce qu'il a vécu à Belfast pendant toute cette période dure, mais il a vécu dans son monde, dans son petit univers, en fait, son marché, il s'est réfugié un peu dans les livres et dans l'alcool aussi. Il m'avait dit que c'était un peu une cause aussi de... Mais j'ai l'impression que lui, il est passé à travers de la guerre en restant dans une position plutôt neutre grâce au fait qu'il était juste au milieu de livres. Donc il me disait, moi je trouvais les livres pour la petite femme protestante, comme pour la petite dame catholique, comme pour l'intellectuel de l'université, comme pour donc qu'il est passé un peu à travers tout ça, comme ça, sans en être touché. Peut-être sur les jeunes, c'est plus les conséquences. C'est plus bon maintenant. Ben c'est un peu partout maintenant. Ça devient un peu partout, mais le manque de travail, le manque de, c'est plus les conséquences. Mais je pense que le rêve de l'Amérique, c'était toujours non très fort chez les Irlandais. Très fort, non? Une chose qui m'avait frappée, c'était quand les gens partaient, ils faisaient un wake, ils faisaient une espèce, une veille mortuaire la veille du départ, mais où ils buvaient beaucoup d'alcool, et ils se disaient les grands sentiments, les grandes choses. Mais c'est quelque chose dans l'imaginaire très fort, non? L'idée de partir très, très loin. Et puis il y a vraiment des gens qui ne sont jamais vraiment revenus. Ou qui sont, ouais. D'ailleurs, c'était génial, ça, pour l'attachement à la terre. En fait, il y a des black taxis à Belfast, c'est des taxis qui, en fait, dans une certaine époque, ils brûlaient les bus dans la ville. Donc, les bus, quand ils allaient dans certains quartiers, ils étaient attaqués. Donc, ils avaient coupé. Ils ne les faisaient plus aller, en fait, dans les quartiers catholiques. Donc, ils ont instauré les black taxis. C'était des gens qui conduisaient le taxi. Mais le taxi était comme un bus. Donc, les gens peuvent monter sur le bus à tout moment. Et ça a continué, et ça continue. Donc, ils existent, ces black taxis. Et ils ont construit, finalement, un grand parking pour tous les black taxis. Et ils n'avaient pas l'argent pour se le financer. Ils sont partis en Australie et ils ont été voir tous les immigrés là-bas et leur ont dit acheter un morceau de terre en Irlande et tout le monde a donné chacun a acheté un mètre carré de terre et ils ont pu construire le parking pour les black taxis. Mais c'était assez extraordinaire d'aller une génération après dire vous pouvez acheter un morceau de terre. En Irlande.
Et comme vous dites, il y avait la tradition, surtout au XXe siècle, au début, quand un garçon ou une fille quittait la ferme familiale pour prendre le bateau pour les États-Unis, l'enfant regardait en arrière vers la maison jusqu'au dernier tournant dans la route, ou le dernier tournant d'où il pouvait percevoir la maison et la maman à la porte, etc. Et puis, il émettait un cri énorme. Et ça s'appelait le cri de l'émigrant. Et puis, il tournait le coin, il ne voyait plus la maison et c'était pour la vie, souvent, comme vous dites. Donc, une autre.
I'll just do a couple more and then we'll sort of wrap it up. I'll just go on to. You start and end the film with images of water.
Vous commencez et terminez le film avec des images de l'eau.
Has this anything to do with the fact that the sea has played such a big role in the history of Belfast?
Il y aurait un lien avec le fait que historiquement la mer a joué un grand rôle à Belfast.
Essentially, a city.
Et surtout pour la construction navale, notamment le Titanic, par exemple.
Je pense que pour moi, je ne sais pas, c'est vrai que l'eau, ça m'a beaucoup parlé pendant ce film, mais c'était presque plus de l'ordre biblique. Je ne sais pas, j'y voyais vraiment quelque chose, un symbole de purification. J'étais fascinée parce que j'ai vu une fois par hasard John se laver les cheveux et il les lave dans son lavabo quand même, c'est déjà tout complètement habillé, donc c'est quand même assez extraordinaire. Et avec ses mains comme ça, tellement des mains de Christ presque, si longues, et il adore se laver souvent les cheveux, en fait il adore aller chez la coiffeuse. Il y a quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce que c'était, mais ça a commencé à me travailler. Mais c'est vrai que, donc au départ du film, je disais, la seule image c'était l'arc de Noé, j'avais pensé au déluge, beaucoup. L'idée d'un endroit, d'un déluge. Et j'avais demandé à Connor, avant qu'on commence à tourner, d'écrire le rap sur le déluge. Je lui ai dit, est-ce que tu te sentirais de... je lui avais chanté la chanson « The animal went into... Right? » Et il m'a regardé avec les yeux comme ça, il a dit celle-là, il faut l'éviter comme la peste. Après, je sais pas, il a quand même composé ce rap. Et il a composé exactement ce que j'espérais, un rap qui a un langage biblique assez extraordinaire pour un jeune de son âge. Ce qui m'a fait penser, effectivement, le langage biblique, c'est incrusté dans cette société où quand même il y avait les gens dans la rue qui prêchaient constamment. Il y a encore les gens qui, tu sors du supermarché, le devil il est derrière toi. Non, c'est quand même, il y a ce côté extrêmement ils sont catholiques. L'autre poète, il est après, bon, là, c'était vraiment... C'était les événements du Japon qui se sont produits au moment où on tournait. Et c'est vrai que c'était... Voilà, c'était très fort. Et ensuite, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment cherché. Là, oui, c'était de l'ordre de l'écriture, d'avoir cette eau à la fin, que tout le monde soit sous le déluge, soit sous l'eau. Et comme pour une fois... Il pleuvait jamais, ce qui était quand même... Si, mon chef-op, il m'a dit, mais dans mon jardin, j'ai des tuyaux. Si tu veux, je peux t'organiser ça. Et bon, je vous dévoile quelque chose qui va détruire la poésie du film. Mais en tout cas, j'avais vraiment envie de voir ces personnages sous la pluie. Parce que pour moi, ils avaient tous été washed away. Ils avaient tous été un peu lavés par quelque chose de plus fort que eux. Alors que c'était la vie, c'était les blessures de la vie, ou c'était cette guerre, ou c'était quoi. Mais j'avais l'impression qu'ils étaient tous un peu dans le sentiment d'avoir à monter sur un bateau pour un petit bout. Pour, voilà. Donc, mais ça, c'est venu avec. Avec le temps, je ne sais pas, avec le temps du tournage, il y a eu plusieurs petits signes. Bon, il se lave les cheveux une fois, il se lave les cheveux deux fois, il va chez le coiffeur, il commence à pleuvoir, il m'amène un rap qui est très beau sur le déluge. Et comme ça, comme des petites choses qui se sont cumulées jusqu'à la fin. Et la seule fois qu'on est sorti, parce qu'on n'est pas beaucoup sorti dans ce film, on a tourné toujours dedans, il pleuvait. Et John, il est tout noir avec son parapluie noir. Bon, voilà, c'est vrai que l'eau avait beaucoup d'importance. Et c'est vrai que c'est une ville qui a vécu que à cause du port. Si elle est devenue aussi importante à un certain moment, les industries et tout ça, c'était grâce au port. Maintenant, ils ont fait un énorme musée sur le Titanic. Alors on rigole un peu à Belfast parce qu'on dit les deux choses dont on parle, donc qu'on connaît de Belfast, c'est la guerre et le Titanic qui a quand même coulé. Et là, ce serait Belfast qui a quand même coulé. Mais ils ont beaucoup de sens de l'humour, c'est ça que j'adore à Belfast, ils ont un sens de l'humour très noir, non? Très très noir. Très très noir. They have a very big sense of black humor.
Yes.
No, because the only two things that you know about Belfast is the war. Mm. And the Titanic, they made a museum, but the Titanic sank.
Yeah, very black sense of humor, gallows humor. Mm. Mm. I've just one more question.
Yes, just à propos de l'humour noir de cette époque-là. Un journaliste juif était là au moment des troubles, le soir, et puis il sent un pistolet sur sa nuque. Et une voix qui lui demande « Êtes-vous catholique ou protestant ?»« Je suis juif. Êtes-vous juif catholique ou protestant ?»
Quand je me suis mariée, il y a une copine des parents de mon mari qui m'a dit « Mais tu es catholique ou protestante ?» Je dis « Mais je suis italienne !» On n'a jamais vu un protestant... chez nous. Et je peux raconter une autre blague que le libraire m'a racontée la semaine passée et je l'ai trouvée extraordinaire. It's a, sorry, a joke about the black humor. Mais vraiment, ça caractérise tellement les gens de Belfast que si vous voulez avoir une image, c'est ça. En fait, il était sur le bus et le bus blindé, l'époque de Noël, il y a quelques années. Et il y a un petit nain qui monte sur le bus et qui commence à crier de façon un peu désagréable, il n'y a pas de place pour moi. Donc une dame, elle lui laisse la place, elle s'assoit, elle continue de parler, mais vraiment avec des gros mots et tout, en disant mais c'est pas possible, vous êtes tous dégueulasses, on est toujours les derniers à avoir la place, hein, et bref, avec des gros mots et gros mots. Et le libraire, donc une femme qui était dans le fond du bus, un peu élégante comme ça, qui avance et qui dit monsieur, c'est vraiment disgraceful, on dit.
Yes.
C'était un mot comme ça, c'est très disgracieux de parler avec un tel langage dans la période de Noël. C'est vraiment pénible de vous entendre. Et j'espère que quand vous rentrez chez vous, Blanche-Neige va vous donner une belle fessée. And I hope that when you go back, Snow White... bit the hell out of you. C'est vraiment... ils sont capables de rire de tout. Et c'est pour ça que je suis assez contente que dans le film, il y a quand même, à mon avis, beaucoup d'humour, beaucoup de sens d'humour qui vient vraiment des personnages, parce que ça, c'est le truc fort que je trouve. Quand tu es capable de rire de ton histoire aussi, de tout, when you can laugh about it.
Yeah.
It's very.
It's much better.
C'est très sain.
Yeah, cathartic as well.
Yeah, exactly.
And yes.
Where did you find John Clancy?
Comment avez-vous trouvé John Clancy, ce visage extraordinaire?
Oui, parce que j'avais une idée pour un sujet qui était un très mauvais sujet d'ailleurs. Et je cherchais un livre et quelqu'un m'a dit, tu peux peut-être trouver ce livre. Donc après la librairie qui a sauté en 1974, il a travaillé dans plusieurs librairies et au final il a eu une librairie à lui qu'il avait encore quand moi je l'ai rencontré. C'était une toute petite librairie triangulaire comme ça, mais vraiment minuscule. Et donc je suis rentrée là-dedans et il était comme ça, comme avec sa cravate, très élégant. Et il y avait 3 ou 4 ex-alcooliques qui étaient là, qui buvaient du thé et qui lisaient des livres. Et se sont tous activés pour chercher ce livre partout. Il y avait 10 millions de bouquins, c'était introuvable. Il a dit non, mais je connais l'auteur. Donc il a pris un vieux téléphone, comme ça moi quand j'ai vu le téléphone, j'étais déjà partie pour mon film. Il fait le numéro, il dit, moi je suis dans la Vallée d'Ost, il dit, il y a une Sicilienne ici, qui s'appelle Francesca, je m'appelle Alexandra, qui cherche ton livre. Et donc il m'a dit, tu peux revenir demain? J'ai dit oui, je reviens demain, absolument. Donc je suis revenue le lendemain. Et la fin de l'histoire, c'est que il y a 2 mois, en fait, j'étais chez lui et il a invité cet écrivain qui à la fin m'a fait parvenir le livre. Et il l'a invité chez lui et on a parlé, on lui a donné le film, on a dit que voilà, lui, il était à l'origine du film. Et c'est vrai qu'au début, je me disais, je voulais faire un film sur une librairie avant qu'elle ferme. Et 2 ans après, parce que le temps a passé, j'étais revenue et il n'y avait plus de librairie. Donc je me suis dit, c'est fini. Mais Michèle, la coiffeuse, qui était en face, elle m'a dit, mais tu peux peut-être aller voir chez lui. Et voilà, et après, j'ai vu tous les livres chez lui et c'est comme ça que tout ça a commencé.
Merci beaucoup, Alessandra. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui voudraient poser une question, faire une remarque à Alessandra? Oh oui, là-bas.
J'en aurais eu un micro. Moi aussi. J'aimerais vous demander par rapport au montage. Je crois que c'était pas vous qui l'a fait. Et du coup, comment ça s'est passé en fait? Si vous étiez avec la personne qui l'a fait, et bon, c'est un peu chiant comme technique, mais du coup, je pense que ça fait partie quand même de l'écriture, du scénario, et vu que vous êtes embarqué au fur et à mesure dans quelque chose qui avait apparemment rien à voir avec ce que vous avez écrit au début, je me demandais comment ça s'était déroulé. S'il vous plaît.
Oui, j'ai monté avec un monteur qui s'appelle Adrien Soucheux, et pour moi, c'est très important de monter avec quelqu'un d'autre parce qu'il a un regard différent sur ce que toi, tu imagines de ton film. Parce qu'en fait, tu as filmé beaucoup de choses, donc tu as une espèce de film mental que tu imagines que tu vas faire. Et après, tu es confronté, tu regardes tes rushs, tu te dis « c'est pas exactement ça que je peux faire ». Et puis du coup là, alors tu es complètement perdu et tu sais plus rien. Et c'est très bien d'avoir quelqu'un, voilà, à côté de toi. Avec Adrien, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a apporté beaucoup de modernité, moi je trouve, dans le montage. On a évité, en fait, souvent dans les situations, si vous voyez, on va directement dans le plan, poum, on est dedans sur un plan serré. Il n'y a jamais 10 millions de petits moments pour arriver à quelque chose. Il est tout de suite dedans, ça, donc j'aimais beaucoup. Mais, et ça, c'est juste pour l'aspect un peu, voilà, esthétique. Pour l'aspect de la construction, là, c'était beaucoup plus compliqué. Je pense qu'un grand rôle, je le dis pas parce qu'il est là dans la salle, mais c'était aussi le producteur qui a joué, dans le sens qu'au début déjà je lui ai dit, Michel, on a un film d'une heure et demie, c'est génial. Il m'a regardé, il a dit ouais. Et en fait c'est vrai, il n'y avait absolument pas un film d'une heure et demie, donc c'est pas la durée. La durée, c'est autre chose, mais c'est presque, la durée détermine aussi une certaine forme. Et il y avait un moment où moi j'avais le sentiment que je devais expliquer toujours on va de A à B à C, pourquoi et tout ça. Et à un certain moment, quand on a été le plus perdu, donc Michel et John McAuliffe, qui était l'autre producteur, ils sont venus et finalement ils nous ont libérés de ce problème. Ils nous ont dit, mais ce film, c'est un film par touche. C'est pas un film où il faut expliquer exactement du A à B au C. Et donc ça, c'était un grand moment d'avancement. Et l'autre chose, c'est que dans le montage, on avait vu tout de suite, il y avait presque deux films. Un plus, on va dire, dans le documentaire classique, c'est-à-dire c'était plus comment John Clancy, où est-ce qu'il est né, on était allé visiter son quartier, nous montrer son quartier et tout ça. Et l'autre, c'était plus, je ne sais pas, ce monde un peu plus plein de fantaisie ou de poésie, ou des scènes qui étaient des scènes qui tenaient un peu plus dans un côté comme ça, hein,
imaginaire,
voilà. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on enlève tout ce qui n'est pas ça, on garde que ça. Et après, quand on a gardé que ça et quand on a compris que c'était par touche, après on avait fait, pour chaque séquence qu'on avait gardée, on en avait sélectionné un peu plus, on avait fait une photo, on avait sorti une photo et on avait une espèce d'énorme puzzle par terre comme ça, et donc on déplaçait, parce qu'à la fin, après, c'était surtout trouver le presque le bon ordre des choses pour qu'une chose réponde à l'autre. Et donc on passait le temps à faire ça, en fait, pas que ça, mais c'était une partie très importante visuelle de, tu as cette espèce de gros machin et comment tu vas travailler dedans. Et voilà, je me rappelle qu'un matin je suis arrivée un peu plus tôt et que j'ai fait comme ça, et tout d'un coup j'ai eu la sensation que ça allait, j'ai rien dit, que j'avais changé tout ce qu'on avait imaginé la veille, et puis Adrien est arrivé, il a jeté un coup d'œil, je l'ai entendu partir, et après il m'a dit, ah, je suis bien content, finalement je crois que t'as compris quelque chose. Et après c'était un peu voilà, c'était un peu le moment où on a... Mais c'était quand même assez bizarre, parce qu'on a trouvé, je pense, le film, on l'a trouvé tout à la fin, qui était assez flippant. Je me rappelle quand Michel est venu voir le visionnage assez tard dans le montage, il est venu à Belfast. J'étais assise à côté de lui, je lui traduisais à l'oreille parce qu'il n'y avait pas de sous-titres. Et je me sentais mourir dans ma chaise, parce que plus je lui traduisais, plus je lui disais, le film n'a aucun sens, c'est hyper nul, c'est mon producteur, il va savoir maintenant que j'ai gaspillé son argent. Et je me sentais mourir de plus en plus. Et après, il nous a libérés en disant, voilà, non, mais c'est pas nécessaire. Et je pense que c'était pour moi quelque chose que j'ai compris et qui m'a beaucoup aidé dans le travail après aussi. Que je ne sais pas pourquoi, parfois on veut tout expliquer, moi je suis un peu de cette nature-là, mais que finalement les choses peuvent se... Et surtout avec des personnages comme ça. Voilà. Donc parfois, j'ai l'impression que le réalisateur, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un monteur, parce que le réalisateur, il a des moments où il va détruire sa créature. Parce que il veut mettre des intentions, il veut mettre des... C'est pour ça que je suis désolée quand parfois vous me demandez si c'était ton intention de faire ça ou de faire ça. J'ai presque l'impression que le film parfois se fait malgré le réalisateur. Que le réalisateur, il essaye juste de prendre les choses qui arrivent et juste à peu près avec sa sensibilité de dire, bon, je sens que ça c'est bien, on va essayer, j'espère. Et qu'à la fin, c'est comme ça que ça se fait, que tout ce qui est de l'ordre du raisonnement, beaucoup de choses que j'avais plus raisonnées étaient vraiment nulles quand je les ai vues. J'ai dit, mais tu as écrasé la réalité, en fait. Donc au montage, c'était un peu ce genre de découverte. Et pour le monteur, c'était assez curieux parce qu'il a monté à Belfast. Et donc, on est allé voir le libraire à un certain moment, après 5 semaines de montage. Et là, je sais qu'il est sorti, il est direct allé dans un pub boire 3 pints parce qu'il a dit, mais c'est pas possible, en fait, je sais plus où je suis. Je sais plus où je suis, si je suis dans la réalité ou dans le montage. Mais je parle beaucoup, mais moi je suis super curieuse d'entendre un peu de votre travail, parce que on a des poètes vivants là, et c'est pas tous les jours, non, c'est...
Je ne sais jamais quoi dire.
Il y a réalisatrice, c'est très beau en français, ça sonne bien.
Thank you very much. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait? Non, je pense.
Oui, je voulais remercier Alessandra d'avoir rebondi là-dessus, puisque nous sommes effectivement dans une périphérie du marché de la poésie. Et donc, ce film a une très grande poésie, mais comme effectivement on a la présence de deux poètes, je voulais d'abord leur poser une petite question concernant une question qui est abordée au début du film, où le poète qui est interrogé dit « Mais moi, si c'est pas de la poésie en rime, c'est pas de la poésie. » J'aimerais savoir, dans votre écriture et dans votre démarche par rapport à la poésie, ce que vous pouvez penser d'un tel sentiment, c'est-à-dire si de la poésie n'est pas en rime, c'est pas de la poésie, est-ce que c'est valable par rapport à votre écriture à vous? Et puis j'aurais aimé aussi qu'on puisse entendre quelque chose de l'un et de l'autre.
Oui,
voilà.
Absolument. Alors, comme Jackie est non seulement dramaturge et chanteuse aussi, mais elle est aussi poète. Donc, elle a fait un choix de trois poèmes pour... excusez-moi, mes papiers... Alors, c'est une grande richesse dans le vocabulaire, donc je ne fais que, pour chaque poème, donner dans une phrase ou deux phrases quelques éléments de chaque poème, pris au hasard. Alors, le premier poème s'appelle Heirlooms, qui veut dire « objet de famille ». Et alors, dans les heirlooms dont elle parle, il y a des tabliers, par exemple, pliés, et de la porcelaine, et il y a les clichés pris de ses tantes en Angleterre. Il y a une boîte d'allumettes qui représente l'île de Man. Pour elle, le familier nous manque. Il y a une certaine nostalgie.
Heirlooms. Sometimes the things of the dead make small utterances. That basket of sunflowers a yogi wove in Dublin reminds me of a warm kitchen with folded aprons, ham sandwiches served on the gold-flecked best and tea. Things inherited, snapshots of aunts in Blackpool, signal to me like beacons in the darkness of the house. This matchbox from the Isle of Man, the mustard jar, pearled, miniatures of girls in an iris field, one of them familiar. Some nights are quiet enough to cling to and remember. What we miss is the habitual, the clutter of drawers and walls, a fire after a blizzard, a long dead mother's laughter, church bells you knew the whole estate had listened to in winter.
Thank you. Le deuxième poème, c'est La cueillette des champignons. Et c'est dans une tourbière. Et la chair des champignons lui rappelle des geishas. Et à la fin, elle en fait un potage noir mêlé de lait et de crème.
Foraging. From the bog at dawn, mushrooms, plump as your flesh, white as geishas, though their fawny gills you found repulsive. Then with arms filled with your unearthings, you'd bring them back, breakfast and lunch, of blackened soup made with milk and cream.
Le troisième et dernier poème s'appelle Des épouvantails et c'est d'après un tableau. Et c'est un épouvantail ou une épouvantail qui est la narratrice dedans et on y parle des bourrasques grises, typiquement irlandais, et des champs de blé, et une étable abandonnée.
Scarecrows, After Scarecrows at Newton Arts by Dan O'Neill, National Gallery of Ireland. We were looking at the mourns, at how they shadow coolly when we got stuck. We just seemed to dig deep into sea bog. Then someone came and dressed us. It was he that lives alone in that wee house by Omeath, with its back to the sea. He dressed me in a blue skirt, red scarf, put a bonnet on my head, brown with stiff yellow ribbon, wired in. Then buttoned on these long, green, rag-tailed gloves. At first I felt like Ruth amid the alien corn, and I fell often. Each time he oxted me up, spittle-cleaned my cheeks and the ravens left. Then I weighed in and down and was as good as home. Now, in the greyest squall, I stand tall and proud, my skirt a prayer of hope in the cornfield. But I can't look at him when he comes. My skull is not set on right, is tilted to Carlingford. My sisters say that lately he's been generous with silk, is less contrary. Well, my heart leapt at that. The wire pinched, the wind went through me as through a disused byre.
Thank you very much indeed, Jessica. Moi, je veux présenter deux poèmes en français édités en 1998 à Québec, en fait à Trois-Rivières. Le premier poème se situe à Paris dans le 11e arrondissement, Square Trousseau. Alors c'est là où on a amené nos trois enfants dès leur plus tendre âge, monter les échelles, descendre les toboggans, manger le sable, etc., parmi les fleurs. Et donc, c'était un endroit de ravissement, de joie. Mais un jour, la mairie de Paris a tout gâché un peu. Ils ont monté une plaque qui disait qu'au XVIIe siècle, sur l'emplacement du square, était un hospice pour enfants abandonnés. Et à l'époque, il y aurait eu un millier d'enfants annuellement abandonnés à Paris. Donc ça m'a beaucoup ému. Et comme la rue Charles Baudelaire longe un côté du square et les fleurs du mal avec les fleurs du jardin, les enfants du passé d'antan et les enfants d'aujourd'hui se sont mêlés. Et j'ai écrit un poème essentiellement sur le nom de Baudelaire, mais caché. Donc, par exemple, « Les beaux prennent de l'air ». C'est plus facile si on peut l'entendre et le lire à la fois, parce que ce n'est pas le mot, le nom de Baudelaire n'est pas écrit directement. Il y a... aussi les poules beaux de l'air, un air peut s'écrire A-I-R ou A-I-R-E selon le cas. Donc aussi il y a les nabots de l'air. Donc c'est à vous de voir. Et j'ai appelé le poème En mal de fleurs. Midi square Charles Baudelaire, j'ai changé le nom. Les pigeons font colombe, les petits tournent en trombe, et les beaux prennent de l'air. L'orphelinat d'antan, pour enfants délaissés, avait beau s'effacer, les roses suintent en sang. Les bambins passent leur bac à sable, à cloche-pied, et mon cœur décrocheté s'ouvre large au ressac. Les poules beaux de l'air de jeu se font écho aux lys en plante drapeau qui s'endeuille pour Baudelaire. Mort en sac d'os à dos, que je pleure en homme saoul, accroché aux épaules, en mal de fleurs à vos lots. Mais le soir, Charles Baudelaire, nos pleurs se font la belle, comme l'automne l'hirondelle et nos nabots de l'air. Le deuxième et dernier poème, j'ai écrit aussi à Québec, et c'est un guide pour les malvoyants, surtout comme moi, qui sont myopes. Et j'avais du mal, la première fois que j'étais invité par Québec, de lire les billets, la monnaie. Et donc j'ai aperçu un très beau faune sur les billets. Et je pouvais voir les oiseaux et les animaux, mais les chiffres, j'avais du mal vraiment. Donc j'ai écrit ce guide. Alors, les habitants de Trois-Rivières s'appellent les trifluviens. Si ce sont les femmes trifluviennes. Ce que j'ai donné comme titre, Transactions trifluviennes, ou comment les trifluviens reproduisent une feuille d'érable. Au casse-croûte du marché, j'étale mon argent de poche sur ma table en bois. 6 feuilles d'érable, 5 bateaux aux voiles déployées, un castor qui construit un barrage, 8 caribous en route, au bois déployé, un canard, un ours polaire, un martin pêcheur, un balbuzard, un huard à collier et un harpon des neiges. Je calcule. Mon petit harpon des neiges vaut 2 huards à collier et demi, ou 5 balbuzards, ou 10 martins pêcheurs, ou 25 ours polaires, ou 200 caribous, ou 500 bateaux, ou 1000 castors, ou 5000 feuilles d'érable. Je bois mon café qui m'a coûté 3 caribous, ou les 3 quarts d'un canard. J'apprends ma leçon de maths trifluvienne. Une feuille d'érable fois un arfond des neiges égale 2 cerfs, que multiplie un ours avec comme produit 2 arfonds des neiges, que divise un balbuzard donnant le quotient 4 castors. Posons ces 4 castors en numérateur et 2 voiliers en dénominateur, simplifiés, et ça donne un canard, dont la racine carrée est un voilier. J'y ajoute 3 caribous, 3 castors, 10 feuilles d'érable, et ça redonne un canard. Qu'on multiplie un martin pêcheur, ce qui donne le produit martin pêcheur. Qu'on multiplie un canard sur 100 castors, et je retrouve comme produit ma feuille d'érable initiale. Je ramasse le tout, je m'en vais, maintenant initié au décimal diluvienne d'une arche de poche trifluvienne. Merci.
Je voulais... Derry O'Sullivan, en fait, on s'est retrouvé aujourd'hui, on s'était croisé il y a plus de 20 ans au marché de la poésie, où il était venu un jour avec une centaine de poètes faire une petite lecture. Et Derry O'Sullivan écrit en gaélique surtout et avant toute chose. Alors, je ne sais pas si vous avez un texte en gaélique sur vous, et si l'on pouvait finir cette soirée par juste, non pas pour l'anecdote, hein, mais parce que c'est votre écriture fondamentale.
Ça s'appelle Corbin de Judas, où est ton Judas? Et le Judas a le double sens, évidemment, de la petite est dans la porte, etc. Mais je vais vous lire quelque chose de court. Et ce poème, c'est un des plus courts que j'ai jamais écrit. Et il y a 36 syllabes, quelque chose comme ça dedans. Et j'utilise une technique spéciale. Et, oh, pardon. Merci, excusez-moi. Et j'utilise une technique spéciale qui est apparentée à l'anamorphose. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette technique en peinture que Holbein, entre autres, utilisait. À Londres, il y a le tableau des ambassadeurs, et quand on se met directement devant, on voit deux ambassadeurs de la Renaissance magnifiques, et si on prend un pas ou deux pas à droite ou à gauche, on voit apparaître une tête de mort sur le tableau qu'on ne peut pas voir tout de suite devant. Alors ce poème, et si on le lit avec l'œil, il y a un poème. Si on l'écoute seulement avec l'oreille, il y a un autre poème. Si on le lit avec l'œil et on l'écoute avec l'oreille, il y a deux poèmes qui jouent l'un contre l'autre. Alors pour ce poème, l'Université de Boston m'a invité avec mon épouse pendant deux semaines pour parler pendant une heure de cette technique. Et on avait essayé avec le Centre culturel canadien, avec toute une gamme de traducteurs, de le transposer en anglais et avec le même effet, parce qu'en gaélique, le poème est conçu avec le mot pour bicyclette en gaélique, qui se décompose pour former d'autres mots, et le mot pour malade aussi. Et c'est mon père qui est décédé, et le narrateur est de nouveau petit enfant derrière son père sur une bicyclette qui remonte devant leur maison, qui se trouve sur une route qui s'appelle la gorge dure ou difficile, la route de la gorge dure ou difficile. Alors, donc, en gaélique, on doit entendre le son de la bicyclette sur une route caveteuse. On verra. Er vohor glaun garv, coigado octotri. Chi maher mor ohor rohor gan roh, le bunny gan waun, har vohor gan wo. Hi maher mor o ar i'r noh y ffyr, yr asmas bwy'n wawn o'n mwy'n ysmo o. Er roch mor yr ochr ym wawr wawr un, er chwlwg maher ym ochr gan o. Alors, il y a, je vais vous lire la traduction, puisque c'était fait en... c'était dans un numéro de Europe sur Casanova. Ça devrait s'ouvrir automatiquement, mais malheureusement, ça n'a pas... Ah oui, il y a les points. Voilà. Donc, dans l'atelier, il fallait trouver la bicyclette et des parties de bicyclette, etc., et la malade, etc., qui correspond au gaélique, évidemment. Alors, il y a les roues, évidemment, il y a les rayons, il y a la prise pour le pantalon, et enfourché. Alors, moi, j'ai découvert un mot grâce au petit Robert, parce que j'ai vu la bicyclette sur la lune et falciforme, et ça a un rapport avec le mot aussi, en forme de faux. Right. Mais quand on l'entend, c'est falsi, fausse forme en fait. Bon, right, d'accord. Sur la voie inégale de la gorge, je vois souffrant mon père en vélo d'exercice, sur des roues sans rayon, sans croisement sa route. Je vois mon père encore, c'est un esprit sans prise. Les chevilles rompues, il enfourche la lune. En vélo falciforme, me voir, roi du sentier, prendre l'allure de mon père vers notre pâle éclipse. Merci.
Peut-être qu'il y a des questions pour les deux poètes dans la salle, je ne sais pas.
Je ne suis pas du tout informée, mais c'est étonnant, là, quand vous l'avez dit en gaélique, on a l'impression de quelque chose de très ancien, de guttural, on sent justement le chemin caouteux. C'est possible de nous parler un tout petit peu de d'où vient cette langue? Et voilà, ça c'est une question. Et je voudrais... Et juste vous dire que le film est vraiment très, très émouvant d'être proche de ces personnages. J'ai un peu peur pour eux, comme vous avez suggéré, qu'il y ait une menace un peu autour d'eux. Et donc ça, c'est émouvant. Et j'aimais beaucoup le poème sur celui dans le champ, The Scarecrow. I like that. Mais voilà, s'il y a une question, c'est sur le guttural de la langue.
Yes. Okay. Merci. Alors, je tâche d'être bref. Selon les linguistes, il y aurait deux populations celtes qui ont traversé l'Europe et il y avait une division et une partie serait dirigée vers la Bretagne, la Cornouaille et le Pays de Galles, et l'autre vers l'Écosse, l'île de Man et l'Irlande. Et alors, selon la loi de Grimm, excusez-moi sur le changement, le glissement des consonnes, il y aurait un glissement entre le son P, le P, et Q, le Q. Et alors, par exemple, je ne parle pas le breton, mais le mot en breton serait pen avec peu, et en irlandais ken, que avec que. C'est un exemple. Et donc, aussi, c'est une des langues qu'on ne peut pas, avec lesquelles on ne peut pas utiliser un dictionnaire sans connaître la grammaire, parce que les mots changent par le début et par la fin. Voilà. On est bien compliqués, nous. Et évidemment, il y a des déclinaisons, des conjugaisons presque aussi compliquées que le français. Presque, hein, presque, mais pas complètement. Quand même, les Français sont experts dans la matière de la finesse de la langue. Donc, toutes les phrases commencent par le verbe, par exemple. Un des caractéristiques, il n'y a pas de mot pour non. Il y a deux mots pour dire non et il y a deux mots pour dire oui. On est généreux. Mais je ne sais pas.
Non, je vous ai dit tout à l'heure, mais vous me faites penser à mon voyage de noces avec ce poème. Je me suis mariée un peu comme ça parce que j'étais amoureuse tout d'un coup, paf, on part en voyage de noces, on arrive dans l'Irlande, dans votre contrée, et tout d'un coup on rentre dans un monde incompréhensible. Les panneaux, ils sont que en gaélique, et toi tu es là lettre par lettre pour comprendre où tu vas, et la radio est gaélique, donc tu entends et voilà, je me suis dit, mon Dieu, je suis rentrée dans un univers que je ne vais jamais comprendre. Mais c'est extrêmement fascinant parce que c'est tellement reculé. Vraiment, tu as l'impression de... C'est pas à l'Irlande, c'est tu rentres encore dans quelque chose d'encore plus ancien.
Ah oui, absolument. Parce que pardon, parce que le monsieur Cromwell, qui est cher en Irlande, comme vous le savez, il a redistribué les terres en Irlande et deviné qui a eu le plus de terres et qui a eu presque rien. Dans le catholique, on était tout à fait surtout ceux qui parlent gaélique, le fin fond des mots. Les Romains appelaient l'Irlande Fines Terrae, Orbis Terrarum, the end of the world. C'est vrai un peu.
Et Hibernia.
En Hibernia, oui, Hibernia.
Robert, il m'a dit que les Romains sont arrivés jusqu'à Irlande du Nord et après ils ont vu les Picts qui étaient tout nus et qui étaient effrayants et qui criaient comme ça et ils ont dit bon, laisse tomber, ils sont rentrés. C'est l'histoire selon Robert, c'est ça.
Bon, ben, merci. Merci beaucoup à vous trois d'être venus. Merci.